La pêche. La pêche à la ligne. La pêche.
Émission sur la mer et la pêche. Troisième.
Ah, ça peut être un fruit. Bah après ouais, la pêche. Je suis pas trop. J'ai un collègue qui pêche à la mouche. Parce qu'il y a beaucoup d'étangs à côté de Lyon, au nord de Lyon. Mais je connais mal. Pêche à la mouche. Bah je crois qu'il jette une mouche dans l'eau. Ouais, je veux dire, ça, je suis pas forcément super intéressé. En plus, c'est un collègue qui parle beaucoup. Après, il parle des courses et tout. C'est du coup, j'ai du mal à suivre. Mais si on a des questions pour la pêche, je pense qu'il peut être vraiment de bons conseils. Et franchement, il a plusieurs cannes à pêche. J'ai vu ça. Il les amène des fois au travail pour montrer sa collègue. Et mais souvent, il m'a dit, il attrape pas forcément des. C'est pas son truc d'attraper les poissons.
Alors pourquoi on pêche quand on n'attrape pas de poissons?
Je crois que c'est le plaisir de la détente, le calme. S'il y a une friterie aussi à côté.
Mercredi. Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas l'invention de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Bonjour à tous, moi c'est Malo de l'Espace des Sciences Maison de la Mer. Ah non, on va pas le faire comme ça, pardon. Bonjour à tous, moi c'est Malo de la Maison de la Mer. Malo de la Maison de la Mer. Je suis médiateur scientifique et c'est moi qui serai avec vous pour visiter le port de pêche de Lorient. Là, on est au port de pêche de Lorient. Le port de pêche de Lorient, c'est l'un des plus grands ports de pêche de France. En tout cas, c'est le premier port en valeur et le second port en tonnage. Le port de pêche de Lorient, c'est 3000 personnes qui travaillent et là, on a des métiers très variés, puisqu'on a des métiers qui concernent la filière vraiment du poisson, d'autres métiers qui vont concerner la construction et la réparation des bateaux.
Mercredi.
Alors très vite, pour faire le tour des métiers, on va avoir évidemment des pêcheurs. Sur les 3000 personnes qui travaillent ici, on a en gros 600 pêcheurs. On va avoir des personnes qui travaillent à la transformation du poisson, à la vente. On a des personnes qui sont dans la veille environnementale, dans la qualité et l'hygiène des différents produits qui vont sortir du port. On a aussi une foultitude de métiers sur l'aire de carénage avec électriciens, électroniciens, des ingénieurs, des architectes, des personnes qui travaillent le bois, le plastique, etc. Donc le port de pêche de Lorient, c'est vraiment une petite ville avec des dizaines et des dizaines de métiers impliqués pour atteindre un objectif, celui de pouvoir amener le poisson de la meilleure qualité possible aux consommateurs. Alors le port de pêche de Lorient, il n'a pas toujours été à l'endroit où on se trouve actuellement. Pendant très longtemps, il était en plein milieu du centre-ville de Lorient, quai des Indes. À l'époque, le grand port de la région, c'était le port de pêche de Groix. À la fin du 19e, au début du 20e siècle, l'État français a envie d'avoir un grand port de pêche sur la côte atlantique. Pour plein de raisons, il va choisir Lorient. Donc le tout petit port de pêche de l'époque, on va l'amener ici. Ici, c'était Lorient Plage, à l'époque on appelait ça. Et tout cet endroit va être transformé dans l'optique de devenir l'un des plus grands ports de pêche de France.
Donc ici, à Lorient, on a pu voir un siècle d'évolution de pêche maritime, du coup.
Oui. Le port, il a vraiment suivi les évolutions aussi bien de mentalité, de ce que c'est que la pêche, comment l'appréhender, et les évolutions techniques, évidemment. Puisque le tout premier bâtiment qui a été conçu ici, c'est l'ancienne glacière du port de pêche. C'était l'un des premiers bâtiments en France à pouvoir créer de la glace, fabriquer de la glace. Évidemment, maintenant, on s'en sert plus. On a tout un tas de glacières répartis un peu partout sur le port de pêche, aussi bien pour les bateaux que pour les différents acteurs, et de la glace en libre service. Que la glace est un exemple, mais le port de pêche continue à évoluer. People come from far, far, far away to find their dream.
chasing them, called dream chasing the sky of life, chasing them, chasing them, chasing them down.
On nous disait tout à l'heure qu'on pouvait avoir jusqu'à 30 tonnes de poissons ramenés au port de Lorient par jour. Il y a un siècle, on sait à peu près la quantité, est-ce que c'était semblable ou complètement différent ?
Ce qui se faisait à l'époque, on était quand même beaucoup sur une pêche qui était locale. Alors, dans le monde de la pêche, on parle de la petite pêche, de la pêche côtière et de la pêche hauturière. Pour faire un rappel très vite, dans le monde de la pêche, on appelle petite pêche. Le grand public appelle ça la pêche côtière. Donc la petite pêche, c'est des petits bateaux qui vont partir à la journée, rester sur les côtes. Donc les bateaux du port de Lorient vont pouvoir aller naviguer au large de Groix pour récupérer, pour aller pêcher leurs poissons. La pêche côtière, c'est des bateaux qui sont un peu plus grands. Donc ceux de Lorient, ils vont faire une quinzaine de mètres de long. Et c'est des bateaux qui sont faits pour partir pendant plusieurs jours. Donc ça peut évoluer, ça va de 3 à 9 jours pour vraiment simplifier. Enfin, on a des bateaux en pêche hauturière qui vont aller pêcher donc en haute mer, qui peuvent aller pêcher à plusieurs centaines de kilomètres d'ici pour ramener les poissons qu'ils pêchent. Il y a 100 ans, on n'avait pas encore cette logique. Actuellement, les bateaux qui font de la pêche hauturière peuvent partir plusieurs mois du port, mais les marins, eux, ne partent qu'une vingtaine de jours. On s'arrange pour les envoyer et les ramener en avion depuis le port où s'amarre le bateau en Écosse, par exemple. À l'époque, les marins partaient avec leur bateau pendant plusieurs mois. Donc c'est difficile de comparer. De la même façon, la quantité de poissons qui nous est ramenée aujourd'hui et la quantité de poissons qui était ramenée il y a 100 ans est difficilement comparable, dans le sens où la plupart des poissons qui étaient ramenés à l'époque étaient des poissons qu'on allait trouver sur nos eaux ou dans la centaine de kilomètres environnants. Ce qui n'est plus forcément le cas maintenant, puisque les bateaux de l'Ascapêche, une filière d'Intermarché, nous ramènent des poissons du nord de l'Écosse et du nord de l'Irlande.
Qui est une distance lointaine du coup pour nous alors.
Il y a encore 100 ans, énormément d'habitants sur Terre n'allaient pas plus loin qu'à 20 km de là où ils étaient nés. J'ai vu dernièrement un reportage sur des personnes habitant et travaillant à Zinzac-Locrise, donc juste à côté de Lorient, qui étaient contents qu'il y ait eu les congés payés puisque c'était la première fois qu'ils pouvaient aller voir la mer. Ça montre bien à quel point c'était difficile de se déplacer et de se déplacer loin. C'était la même chose pour aller pêcher. Plus on allait pêcher loin, plus ça allait être compliqué en termes de gestion du bateau, gestion des hommes, gestion des poissons qu'on allait devoir ramener, etc. etc. Un petit exemple encore tout bête. Avant d'avoir de la glace, comment on conservait les poissons ? On les conservait grâce aux algues. Donc évidemment, je parle des poissons frais. On utilisait le salage, le fumage, mais pour préserver du poisson frais, on le conservait sous des algues. Les algues, ça marche bien, ça marche pas très longtemps. La seule autre solution pour avoir de la glace, c'était d'aller chercher des icebergs. Ça se faisait. Mais vous imaginez bien l'entreprise que ça pouvait être d'avoir des bateaux qui partaient pour aller récupérer des icebergs, les accrocher et les ramener gentiment et le plus vite possible.
Lusculme bagigua gribelandu dispag de well arred Lusculme bopre drogan a well Lusculme bagigua gris skalm bopre drogan a well you flou sen deus stur bopre se tu en e wan o ron de gus pesque de well arri lusquel beaupreux rogan a well you flou sen des estu beaupreux.
Un pêcheur ne peut pas aller pêcher ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Un pêcheur professionnel, ça va être un peu comme un pêcheur amateur qui achète une carte de pêche pour aller pêcher dans telle rivière de telle saison et qui achètera une autre carte de pêche pour aller à un autre endroit. Un pêcheur professionnel va être autorisé à aller pêcher certaines espèces à certains moments, à certains endroits. C'est essentiel qu'il y ait cette réglementation, c'est aussi comme ça qu'on peut...
Celui qui part du port de Lorient, est-ce qu'il peut aller pêcher partout ?
...qui sont mis en place pour s'assurer d'avoir une gestion de la ressource, des poissons et autres crustacés, etc. S'assurer d'avoir une gestion qui soit durable des pêches. On ne peut pas demander, même avec les meilleures volontés du monde, à tous les acteurs de la filière, aux milliers de pêcheurs qu'on trouve en France et en Europe, de s'entendre pour réussir à ne capturer que ce qu'il faut pour ne pas impacter trop sévèrement l'environnement. On est obligé de se soumettre à certaines règles qui vont être mises en place pour s'assurer d'avoir une pêche qui soit durable. On pourra en revenir, mais la définition du durable, elle est importante. Être durable, c'est s'assurer de veiller à l'environnement, c'est le but évidemment. C'est s'assurer aussi de veiller aux hommes qui vivent sur cet environnement et à l'économie autour de ça, puisqu'on vit dans un monde où c'est l'économie qui va permettre de faire fonctionner le reste. Si on oublie une de ces trois branches, si on oublie un de ces trois piliers du durable, au final, on va aboutir à quelque chose qui ne sera plus durable, qui sera déséquilibré.
Alors là, j'interromps Malo pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur la pêche durable, je vous invite à écouter notre première émission sur ce cycle sur la mer, diffusée le 2 octobre 2019 sur Mercredi. C'était une émission sur l'état de la mer aujourd'hui, avec une interview de Mathieu Colletter, chercheur en écologie marine, qui travaille pour l'association Bloom, qui lutte pour un monde meilleur pour l'océan. Mais Malo a un exemple intéressant à nous donner pour nous faire réfléchir sur cette question de pêche durable, donc je le laisse finir.
Un petit exemple tout bête, il est évident pour tout le monde qu'il ne faut pas pêcher un bébé poisson, qu'il ne faut pas pêcher un poisson qui ne s'est pas encore reproduit. C'est une idée qui est absolument évidente. Maintenant, jusqu'à quel âge c'est un bébé poisson ? On a des poissons qui, au bout d'un an, deux ans, vont pouvoir se reproduire. On a d'autres poissons qui, au bout de 30, 35 ans, ne se sont toujours pas reproduits. Tant qu'on n'a pas la connaissance de cette réalité, ben on ne peut pas être vraiment durable, puisqu'on n'avait pas de base toutes les cartes en main.
Tout à l'heure, tu nous parlais de la pêche du futur. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées qui ont déjà été envisagées sur à quoi ça ressemblerait ?
Les recherches actuelles essayent de réunir un maximum de données pour aboutir à un engin de pêche qui pourrait, par exemple, partir tout seul en mer. Imaginez un drone sous-marin qu'on va lâcher au port, qui va partir, de lui-même trouver les populations de poissons qui nous intéressent. On imagine des macro-adultes, et s'arranger avec des moyens lumineux et sonores pour guider cette espèce. Exactement comme un chien de berger va réunir les moutons et les ramène à son propriétaire, à son berger, les pêcheurs pourraient lâcher leurs drones dans l'eau, les drones iraient chercher les poissons et les ramèneraient, on peut imaginer, dans un bassin au bord du port, où les pêcheurs n'auraient plus qu'à récupérer les poissons avec une épuisette. En imaginant un processus tel que celui-ci, on pourrait avoir un pêcheur qui reste au port, qui travaille en sécurité, et un environnement qui serait abîmé, évidemment, puisqu'on parle de pêche, on parle d'une activité qui enlève quelque chose de l'environnement, en l'occurrence des poissons. Mais cet impact serait minime, puisque l'environnement de vie des poissons ne serait pas abîmé par un engin qui reste, ou qui frotte, ou qui gratte, etc. On aurait une sélectivité qui serait parfaite, puisqu'on pourrait obtenir une seule espèce de poisson, et pourquoi pas même une seule tranche d'âge dans les espèces de poissons.
Dans nos émissions sur la pêche, on parle surtout de la pêche en France. On y habite, c'est un pays de pêcheurs. C'est plus facile pour nous de parler de là où on est. Mais vous vous en doutez, la pêche en mer concerne tous les pays qui ont une côte. Pour plus d'un milliard d'hommes et de femmes aujourd'hui, la pêche est indispensable à la vie. C'est intéressant de regarder des documentaires, des livres sur la pêche dans le monde. On découvre des bateaux très différents en fonction des poissons à pêcher et des moyens sur place. On se rend compte qu'il y a des pays où peindre son bateau relève de l'œuvre d'art. Je pense à l'Inde, par exemple, où les barques sont aussi classes que les grands camions couverts de fleurs et de motifs ornementaux. Il y a un livre que je vous conseille, c'est « La pêche racontée aux enfants » aux éditions La Martinière Jeunesse. La pêche, c'est une culture. Qu'est-ce que ça veut dire, une culture? Ça veut dire qu'elle a son vocabulaire, ses expressions. Pensez au capitaine Haddock dans Tintin. Il doit vous en avoir appris de belles. Mille sabords! La pêche a ses habits, la marinière, ses histoires, ses mythologies. Je suis sûre que vous avez déjà dessiné des sirènes, ces êtres qui attirent les pêcheurs dans le fond marin. Ses dieux et ses chants. Partout dans le monde, on chante sur les bateaux ou sur terre. Et souvent avec une gestuelle, une chorégraphie particulière. Soit pour mimer les gestes, soit pour se donner le courage. Par exemple, pour hisser les voiles, qui sont très lourdes. Écoutons maintenant le chant que des femmes akélées au Gabon chantent sur terre pour parler de la pêche sur le lac Ogemwe.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour, donc je m'appelle Ken Kawahara, je suis le secrétaire d'une association de marins pêcheurs qui s'appelle la plateforme de la petite pêche artisanale.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette association?
Alors cette association a pour principal objectif de défendre notre secteur et nos bateaux, qui sont des bateaux de petite pêche, c'est-à-dire des bateaux de moins de 12 mètres qui travaillent principalement, essentiellement à la côte, c'est-à-dire, on appelle ça dans les 12 000 marins, ce qui représente à peu près 20 km. Grosso modo, et ce sont des bateaux qui sortent à la journée, c'est-à-dire qui partent généralement tôt le matin et ils reviennent dans l'après-midi ou dans la soirée suivant. Voilà, donc ils pêchent des poissons qui sont très 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 frais et c'est leur, voilà, c'est leur objectif.
Combien de marins de petite pêche il y a en France ?
Alors en France métropolitaine, sur l'ensemble de la France métropole et dom-tom, on compte environ 20 000 marins, dont plus de la moitié qui sont des marins de petite pêche.
Et donc ça fait combien de marins en global ?
20 000, c'est ce que j'ai dit. Voilà, en nombre de bateaux. En nombre de bateaux, la petite pêche représente 80% de la flotte. Sur l'ensemble de la flotte de France métropolitaine, c'est 3000 bateaux sur 3500 bateaux environ. Voilà, sachant que la plateforme de la petite pêche artisanale ne travaille pour l'instant malheureusement qu'en France métropolitaine.
Et donc pourquoi cette plateforme existe ?
Alors cette association de marins pêcheurs existe parce que la tendance depuis très très longtemps, 50 ans si ce n'est plus, c'est une grande diminution en fait de la flotte de pêche et notamment de la flotte de petite pêche. Il faut savoir que dans les années 50, il y avait un nombre très 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 important de petits bateaux et que ce nombre a chuté drastiquement et que le secteur de la petite pêche, des bateaux de moins de 12 mètres, c'est le segment de bateaux qui est le plus fragile actuellement, qui est dans la plus grande difficulté financière et également en termes de ressources. Les ressources qu'ils exploitent sont aussi beaucoup pêchées, beaucoup convoitées par les plus gros bateaux et sont donc en moins bon état. Donc il y a beaucoup de choses qui font que ce secteur doit être mieux défendu.
Et où est-ce qu'on peut se renseigner pour voir quel poisson est en voie de disparition, quel poisson va bien?
Alors vous avez un guide qui est très bien fait, qui n'est pas un guide de consommation qui va vous dire faut acheter, faut pas acheter, mais qui va vous donner l'état de la ressource, qui s'appelle le guide des espèces de l'association Seafood Choice Alliance. Voilà, donc il faut taper sur. Mais si vous tapez sur internet guide des espèces, poissons ou pêche, etc., vous tomberez certainement sur ce guide. Par contre, c'est un guide qui est assez imposant. Hein. Enfin, je veux dire, pour chaque espèce, vous avez une page ou deux. Mais vous aurez un petit descriptif sur chaque espèce, etc. Après, le conseil qu'on peut donner quand même.
Pourquoi vous vous impliquez dans cette plateforme ?
Parce que justement, je suis passionné par la mer depuis mon enfance et que dès que j'ai eu l'âge et la possibilité d'avoir un masque, j'ai mis la tête sous l'eau j'ai fait mes études dans la pêche en tant qu'ingénieur halieutique et ma volonté, c'était autant de travailler quand même pour la nature, quoi, enfin pour la protection de la mer, parce que pour moi ça sont des enjeux extrêmement importants et où il y a beaucoup de choses à faire, et également travailler pour les pêcheurs, parce que moi je conçois pas en fait une nature dans laquelle l'homme serait absent, quoi, hein. Pour moi, on fait partie de la nature, on pêche des poissons, mais on doit aussi apprendre à mieux les préserver leur futur également, quoi. Donc c'est l'alliance des deux en fait qui m'a toujours passionné, quoi. Tıkandım kaldım geceler boyu Düşlerin karanlık yalnızlığında Tıkandım kaldım günler boyu quelque chose qui revient très souvent, c'est la fierté. La fierté
déjà de nourrir la population, d'être ce maillon qui va permettre de nourrir le reste de la population. La fierté aussi de pouvoir maîtriser cet élément qu'est la mer et tout ce qui s'y passe. La tranquillité aussi. Quand vous êtes sur votre bateau, surtout pour les pêcheurs qui sont seuls ou à deux, vous êtes quand même au calme, tout seul face aux éléments. Vous travaillez à votre rythme, vous travaillez comme vous l'entendez et c'est quelque chose qui est appréciable. Et puis il y a l'ambiance aussi. Moi, j'aurais jamais pu le comprendre il y a 7-8 ans en arrière, mais la première fois que je suis venu au port de pêche à 4h du matin, que je me suis retrouvé entouré de tous ces bateaux qui arrivaient au port, déchargeaient leurs poissons, que j'entendais le bruit des goélands qui gentiment se réveillaient. Et il y a un vrai mélange entre quiétude et activité. Et c'est, ouais, c'est vraiment une ambiance que je ne retrouve que sur le port aussitôt et qui doit se retrouver aussi sur les bateaux. Et puis puisqu'on parle aux jeunes aujourd'hui, et je propose énormément d'animations pour les jeunes de tout âge sur les métiers. Et ce que je veux dire là, c'est une réalité, quel que soit le métier, on l'apprend à l'aimer. Quel que soit le métier, on apprend à en être fier aussi. Quel que soit le métier qu'on envisage, il a ses avantages, il a ses inconvénients et il a ses sources de fierté aussi. Donc même si un métier peut paraître vraiment très dur, vraiment très rebutant, ben, on ne peut pas savoir si c'est un métier qui ne nous correspondrait pas tant qu'on n'a pas vraiment essayé.
Merci à Malo de la Maison de la Mer à Lorient et à Ken, qui travaille sur la plateforme de la petite pêche en France, d'avoir bien voulu répondre à nos questions avec Maëlle. C'était la troisième émission sur le cycle de la pêche, la quatrième arrive bientôt. Et dans cette quatrième, on rencontre un pêcheur à la retraite, Jean. Il continue de pêcher et il m'a même dit qu'il m'emmènerait sur son bateau. Les musiques entendues dans l'émission sont Luskel Mabajig, un chant breton sur la mer, et Sia Sia Bend, un chanteur turc, avec le morceau Can Evindem Vurdum. Et pour finir l'émission, de quoi se donner envie de manger du poisson, du poisson.
Mercredi.
Cuisiner du poisson entier, c'est pas plus compliqué que de cuisiner du poisson en filet. Vous pouvez demander à votre poissonnier de vider et d'écailler le poisson si c'est pas fait. Ensuite, vous lui mettez un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre dessus. Vous le mettez au four, suivant la température, un petit moment. Et puis c'est tout, quoi. Ça dépend. Un maquereau qui fait 300 grammes, vous le laissez 5-6 minutes au four à 200 degrés ou 10 minutes à 150 degrés, quelque chose comme ça, et voilà, c'est tout. Vous sortez, vous le mangez, c'est pas plus compliqué que ça, quoi.